Quand j'avais 4 ans, parce qu'on a beaucoup parlé de Barbie hein, récemment, et ben, vous savez ce que je faisais moi avec mes Barbie, mon grand truc, c'était de leur enlever la tête pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il paraît que je restais pensivement pendant des heures comme ça à regarder ce qui se passait.
Très shakespearien comme posture avec
ouais,
le crâne dans la main.
Déjà, c'est rigoureusement exact. Mais derrière l'anecdote un petit peu étrange, il y a une passion véritablement pour la dissection des êtres.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est encore cette semaine présenté de Paris. Avec nous aujourd'hui, Sarah Chiche, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne et aussi auteur de plusieurs essais, mais aussi et surtout peut-être de plusieurs romans. L'Inachevé en 2008 était, je pense, le premier, n'est-ce pas? Et plus récemment, Saturne vous place dans la course au Grand Prix littéraire, Goncourt, Femina, Médicis, Académie française. Est-ce que ça monte à la tête quand on arrive si près de ces grands prix?
Non, pas du tout, parce que la seule chose qui compte, au fond, c'est de rester au plus près du texte et de l'écriture.
Alors donc, ça ne vous a pas contaminé l'esprit. En 2019, vous avez remporté quand même le prix de la Closerie des Lilas pour Les Enténébrés, un titre qui donne un peu la couleur de votre œuvre, je pense, même si le registre a légèrement changé avec le dernier. Vous avez, dites-vous, fait le vœu d'écriture à l'âge de 9 ans, mais aujourd'hui estimé qu'écrire est un consentement à l'impuissance. Sont-ce là peut-être les premiers cailloux blancs que je devrais suivre pour brosser un portrait peut-être psychanalytique de ma patiente que vous serez aujourd'hui? Je ne pense pas en avoir les compétences, rassurez-vous. Votre plus récent roman, Les Alchimies, a eu cet effet sur moi, alchimique, parce que le temps s'est transformé en or, je le dis sincèrement, délicieux moment passé en votre compagnie. Petit roman compact, fort bien réussi. Je disais avec changement de registre, d'ailleurs, qu'on vous reproche un peu, comme si un auteur était assigné à une manière de faire les choses.
Je n'aime pas du tout être assigné à résidence. Et il est vrai que ça a suscité beaucoup d'enthousiasme, ce changement, mais aussi quelques réserves, vous voyez, parce que quand on a aimé quelque chose chez un auteur, on s'attend peut-être à retrouver de livre en livre la même chose,
le
duplicata, la même patte. Or, vous voyez, il y a des auteurs que je respecte beaucoup et que j'estime, par exemple Philippe Forest ou Christine Angot, qui vont avoir la nécessité de livre en livre d'explorer dans tous les recoins possibles, avec toutes les énonciations possibles, la même question. L'inceste pour Christine Angot, le deuil impossible de l'enfant pour Philippe Forest. Et puis, il y a d'autres auteurs qui, à chaque fois, vont inventer une nouvelle forme.
Une nouvelle quête aussi.
Ou une nouvelle quête. Avec Les Enténébrés et Saturne, que certains ont pu considérer comme un diptyque, il y avait ce matériau, somme toute assez autobiographique, vous voyez, d'une part. Et puis, pour Les Enténébrés, l'exploration dans toutes ses outrances de la passion amoureuse, des différentes sortes d'amour. Pour Saturne, la question du deuil et de la mélancolie, avec un truc très, très doloriste. Et là, je me suis dit, bon, je suis allée au bout de tout ça et j'avais envie de surprendre, vous voyez, de proposer complètement autre chose.
Et on ira vers cette autre chose un peu plus tard, parce que je pense qu'il y a un détour biographique qui s'impose, mais à la volée, puisque vous parlez de la souffrance liée à l'amour. Mmh. En fait, ce n'est pas l'expression que vous avez employée, mais c'est inévitable, selon vous, que l'amour nécessairement va engendrer de la douleur comme il l'amène de grand bonheur.
Oh non! Oh non, disons que c'est l'amour a cette vertu de présenter une immense force d'arrachement à soi. Hein,
mais vous avez déjà dit aussi que c'était une des dernières zones subversives, l'amour.
Oui, je crois. Il me semble que c'est quelque chose, si vous voulez, de profondément, au fond, asocial. Je ne parle pas du mariage. ou de la conjugalité. Ça, c'est tout à fait autre mm-hmm. chose. Ça nous inscrit dans le monde, ça nous donne une place sociale dans le monde. Je parle bien de l'amour, de ce qui se passe dans le secret de l'alcôve, de ce qui est tout à fait privé, de ce qui ne regarde pas la société. C'est toujours, il y a toujours une forme de transgression.
Et qui ne relève d'aucune convention, donc.
Et qui ne relève absolument d'aucune convention. Et il est vrai que dans Les Enténébrés, j'ai voulu explorer cette question, cette quête de la passion amoureuse, de génération en génération, à travers les figures de femmes excessives, tempétueuses et enténébrées.
Je disais enténébrées qui donnait un peu le là ou la couleur de ce qu'a été jusqu'à ce jour votre œuvre. Est-ce que ça correspondait à quelque chose pour vous qu'il y avait dans... dans ce que vous écrivez et peut-être dans ce qui vous intéresse, ces zones qui sont enténébrées, où tout n'est pas parfaitement clair, comme la vie d'ailleurs.
Dans l'art et dans la vie, j'aime la complexité, j'aime la nuance, j'aime les contradictions. Et donc, il me semblait important pour Les Enténébrés et pour Saturne d'explorer les contradictions de ces personnages. Pour certains, je les ai très bien connus, puisqu'ils m'ont été inspirés par des membres de la famille. Mais c'était dans l'idée, vous voyez, de montrer que chacun d'entre nous contient un grand orchestre et que cet orchestre n'est pas toujours harmonieux. Parfois, c'est hyper dissonant et c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que, par exemple, une même dans Les Enténébrés, il y a la figure du conjoint qui est à la fois admirable et en même temps, à d'autres moments, d'une grande médiocrité. Il y a la figure de cette mère qui est à la fois... enténébré par sa folie, mais qui à d'autres moments se montre d'un courage exemplaire. Il y a la narratrice qui se promène dans tout ça et qui tente d'être sans complaisance aucune pour ses faiblesses morales. Donc c'est bien cela qui m'intéresse et peut-être qu'on le retrouve dans les alchimies. Ça, ce goût pour la complexité, la texture des êtres.
Je cite souvent Alain Robbe-Grillet, à qui un journaliste disait « Mais pourquoi vos films sont-ils si compliqués ?» Il lui répond « Mais monsieur, parce que la vie est compliquée. » Il y a un peu de ça, je pense qu'on cherche toujours la réponse facile, alors que il n'y en a pas, surtout quand on est en face de quelqu'un. Et mon expérience, c'est que... ce quelqu'un et même les personnes que nous avons le plus aimées demeurent toujours un peu impénétrables.
Eh oui, vous savez, en littérature, en art, j'aime bien les tableaux ou les films où on ne nous explique pas tout, vous voyez, ou les livres où on ne nous explique pas tout, où il y a des choses qui sont présentées. Par exemple, vous prenez le cinéma de Bresson ou le cinéma de Haneke, ou vous prenez le chien...
Que vous aimez beaucoup, celui d'Haneke.
Oui, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ou vous prenez le chien dans le tableau de Goya. Vous êtes en présence d'un mystère, mais qui nous renvoie au plus troublant, au plus nu, et en même temps qu'au plus opaque de notre condition humaine. Et ça permet à chacun d'entre nous de se voir dans l'œuvre d'art et de glisser sa propre interprétation. Vous voyez, quand tout est sursaturé de signification, quand on nous explique les causes psychologiques de telle ou telle chose qui doivent aboutir à telle conséquence de façon extrêmement simplifiée, non, ce n'est pas la forme d'art que j'affectionne.
Mais on a commencé en parlant, puisqu'on... souligne qu'il y a une forme d'art dans notre conversation, c'est l'art du roman, qu'on aime que les auteurs soient assignés à résidence, que mm-hmm. quand ils ont embrassé quelque chose comme un style, ils s'y tiennent. Mais on fait la même chose avec les gens autour de nous, avec même ceux qu'on aime, c'est-à-dire qu'on les assigne à résidence. Très souvent, la personne qu'on a connue, on voudrait qu'elle demeure toujours la même.
Mais c'est ça c'est la grande fixité. Proust a beaucoup travaillé cette question, hein, tellement merveilleusement qu'il est difficile d'en parler après en littérature. Et pourtant, on s'y essaye. Qu'est-ce qui se passe quand l'objet aimé, vous ne pouvez pas l'emprisonner. Je pense à la prisonnière, quand mm-hmm. La figure de la femme aimée, comme ça, s'échappe quand elle est mouvante. Quand votre enfant grandit. Hein?
Et qu'il n'est plus tout à fait le même.
Et qu'il n'est plus tout à fait le même. Voilà, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais pourvu qu'elle m'aime et me comprenne, hein, pour paraphraser le poème. Mais voilà.
Et ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas que l'œuvre du temps qui fait que nous changions, mais le regard plus pénétrant de l'autre, peut-être qu'il découvre que nous sommes autre chose que ce qu'il avait vu la première fois, que les contradictions dont nous parlions se révèlent et que soudainement, surprise, ce n'est pas le personnage que j'imaginais.
Oui, par exemple, dans les alchimies, Camille, l'héroïne, médecin légiste, a vécu une enfance absolument idéale avec son père, médecin légiste, sa mère, médecin généraliste, très occupée mais très aimante, un parrain un peu fantasque mais en même temps bosseur acharné, grand neurologue, et puis elle se faisait une représentation de cette enfance. Et puis, à la faveur de cette quête du crâne de Goya, elle va apprendre par la bouche d'une autre que ce qu'elle s'était raconté à propos de son roman familial était un leurre parfait.
Parce qu'on se compte à soi-même des histoires aussi.
Ben, on a tous besoin de fiction, vous voyez, pour grandir, pour pousser dans l'existence. Il y a les fictions des livres qu'on lit, des films qu'on voit, des tableaux qu'on rencontre dans les musées, et il y a les fictions qu'on se raconte sur soi et sur les proches en permanence.
Alors je vais vous citer dans le roman, et c'est Camille justement qui parle, au sujet de la maladie humaine, pour faire court. Alors cette maladie humaine, ouvrez les guillemets, elle s'attaque en priorité aux plus doués. Pas aux illuminés, non, aux êtres qui dissèquent tout, trop épris d'analyse et de raisonnement pour ne pas vivre leur intelligence comme une malédiction. Est-ce que vous êtes un peu comme cette Camille? Alors, je comprends que vous n'êtes pas comme Flaubert, Madame Bovary, mais est-ce que vous êtes un peu Camille? Parce qu'il y a quelque chose de très cérébral chez vous, et ça nous amènera à la biographie.
Oui. Ma mère raconte souvent à ses amis un truc qui l'a fait beaucoup rire, moi qui me sidère un petit peu. Quand j'avais 4 ans, parce qu'on a beaucoup parlé de Barbie récemment, et vous savez ce que je faisais moi avec mes Barbies, mon grand truc c'était de leur enlever la tête pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il paraît que je restais pensivement pendant des heures comme ça à regarder ce qui se passait.
Très shakespearien comme posture avec
ouais,
le crâne dans la
déjà,
main.
Déjà, c'est rigoureusement exact. Mais derrière l'anecdote un petit peu étrange, il y a une passion véritablement pour la dissection des êtres, de leur comportement, comment ça marche? C'est quoi la mécanique des êtres? Qu'est-ce qui font qu'ils sont arrivés à ce point de leur existence? De quoi sont-ils faits? Ça, c'est un truc qui me bouleverse, qui me passionne et dont je ne me lasse, dont je me lasse absolument pas.
Et vous en faites métier, puisque vous êtes clinicienne, aussi psychanalyste, vous avez donc des patients. Vous êtes passé par le divan et il vous a, ce que le mot approprié d'ailleurs serait guéri ou soulagé.
Oui, alors, écoutez, oui, maintenant, l'essentiel de mon activité, c'est quand même l'écriture, mais c'est vrai que pendant longtemps, l'analyse a été le cœur de ma pratique. Ça reste, voilà, un métier, mais ma nécessité, c'est bien, et l'essentiel de mon activité aujourd'hui est bien lié à l'écriture. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que il y a des gens qui sans prosélytisme aucun, parce que je recommanderais pas ça à tout le monde, mais il y a des gens qui disent « Ah, j'ai peur que ça assèche ma créativité ». Dans mon cas, je dis bien dans mon cas précis, au contraire...
La psychanalyse ?
Oui, vous voyez, ça a permis de se dégager de certains embarras qui ont favorisé l'écriture, mais j'ai pas attendu d'aller sur un divan pour savoir que ce que je voulais faire de ma vie, c'était écrire. C'était un vœu très très fort.
Ben, j'ai dit 9 ans.
Formulé, oui, quand j'avais 9 ans.
Mais je vous ai laissé sur une question. On sort guéri ou soulagé d'une thérapie. Guérir, évidemment, implique qu'on soit peut-être malade avant.
Oui.
Et c'est pas nécessairement le cas.
Oui, malade de lucidité, oui, bien sûr, mais je m'en cache pas trop. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé la question de la mélancolie. Voilà, ben oui.
Ça, malade ça. De lucidité.
Ben oui, vous savez, quand vous voyez derrière l'obscénité de certaines choses, derrière les masques sociaux, etc., oui, ça peut être un petit peu douloureux, mais un jour, on s'en déleste. Mais il y a tant... Goya a travaillé là-dessus, dans les désastres de la guerre, vous voyez, et dans les capricieux de choses, c'est ce qu'il montre. Les vices et les vertus de son époque, de son temps. Nos bassesses, nos médiocrités, nos grandeurs aussi. James Ensor, quand vous regardez ces tableaux où tout le monde est masqué ou alors avec des têtes de mort, c'est bien ça. Raphaël de Valentin, le personnage principal de La peau de chagrin, c'est la même histoire. Voilà, c'est toujours la même histoire qui est racontée. Styron face aux ténèbres, c'est la même chose qu'il raconte. Donc, on connaît ce vieux problème décrit depuis Aristote dans le problème 30, hein, c'est-à-dire que Roquentin dans la nausée, c'est la même chose. C'est quand vous êtes confronté à quelque chose de l'obscène nudité de l'existence, ben vous tombez sur un os. On faisait ce geste-là tout à l'heure, Hamlet, et le crâne de Yorick, ben c'est la même chose.
Mais pour la jeune fille qui décapitait ses Barbies pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur, qui aujourd'hui écrit un roman où l'héroïne est en quête de la tête de Goya, qui est disparue. Comme d'ailleurs la tête ou les têtes de plusieurs personnes célèbres, on reviendra là-dessus. Donc, un matériau fertile. Je reviens à la gamine, donc 9 ans, lucide, hyper lucide peut-être, et qui dit aujourd'hui avoir surinvesti dans tout ce qui était la vie intellectuelle, c'est-à-dire qui compense peut-être pour, vous l'avez dit aussi, le fait que votre mère est très belle, et que c'est une bataille que vous ne gagnerez pas.
Ah ben oui. Ah ben oui.
Donc c'est un choix lucide de dire vous serez
vous
première
savez.
En tout.
Non, malheureusement.
C'est la première fois que vous riez, franchement, là, depuis le début, sur cette idée d'être première en tout.
Non, malheureusement, la vie se fait fort de vous démontrer que non, on ne peut pas être première en tout. Donc
et c'est malheureux, ça?
Non, c'est bien parce que ça prend l'humilité et puis ça permet de découvrir d'autres choses, d'autres chemins. Donc finalement, ben non, si on était toujours première en tout, ce serait un petit peu ennuyeux. Hein. L'art de perdre, c'est un très beau titre d'un roman d'Alice Zeniter et voilà. Et je crois que voilà, il y a un art de gagner, il y a un art de faire la guerre, comme dans les personnages des alchimies au début du roman, hein, ces médecins, ces soignants qui sont sur le front, cet art de faire la guerre, et puis il y a l'art de perdre aussi. Et puis, il y a effectivement ce que Goya appelait les désastres de la guerre, hein, c'est-à-dire la façon dont ces combats vont engendrer des passions tristes en nous, hein. Donc très tôt, j'ai surinvesti le champ intellectuel et ça m'intéressait de me fabriquer en intérieur.
On se fabrique ?
On se fabrique et puis on est fabriqué par les livres qu'on rencontre et puis par les gens qu'on rencontre, malheureusement.
Mais on est fabriqué par les livres qu'on rencontre dans la mesure où on investit très fort dans sa vie intellectuelle aussi. C'est-à-dire que tous les gamins ne sont pas pour autant fabriqués par les livres qu'ils ont croisés. Ça peut être les copains pour certains, ça peut être des professeurs, ça peut être en fait une foule de choses. À partir du moment où la littérature occupe un pareil espace...
Ben, c'est quand il y a une vacance, si vous voulez. Ah, des amis, j'en ai eu, des très bonnes amies, quelques bons copains, j'en ai eu aussi. Et c'est d'ailleurs l'amour d'une certaine littérature qui nous réunissait à l'adolescence. Je pense à la littérature, bon, c'est très cliché adolescent, mais décadentiste, Huysmans, Barbey d'Aurevilly, on lisait évidemment Rimbaud, Baudelaire. On s'intéressait à ces histoires de club des hachichins, on lisait Charles Cros aussi, Lautréamont. Donc oui, il y avait un partage, mais il y avait aussi beaucoup de solitude, c'est vrai, et beaucoup de violences diverses et variées auxquelles il fallait faire face avec les moyens du bord. Et pour moi, la littérature a représenté très tôt un arrimage, vous voyez.
Refuge ou arrimage ?
Un arrimage, c'est-à-dire que quand c'est la tempête, quand vous êtes pris dans les courants contraires d'une, d'un océan déchaîné, démonté, et que vous sentez que vous pouvez couler, et ben, il y a des livres qui vous prennent dans les bras mieux que ne pourrait le faire un parent. Et vous vous y accrochez.
Mieux qu'un parent.
Ah ben oui. Ben oui, parce qu'on n'a pas toujours, vous voyez. Mais je vais vous dire un truc, passé un certain âge.
Dites-moi un truc.
Ouais, vous voyez, j'ai 47 ans maintenant. J'ai vieilli. J'ai vieilli depuis l'écriture de Saturne. Et je crois que passé un certain âge, les parents, quel que soit ce qu'ils ont pu, je veux dire, hors grand crime sexuel, par exemple, etc. Mais voilà, pour les embarras, les engueulades, les trucs, etc. Ben voilà, on pardonne, on se déleste de ça, on fait avec, et puis on est responsable de ses actes et on est responsable de sa vie.
Mais je suis d'accord, mais c'est un choix aussi.
C'est-à-dire que
certains choisiront de penser que leurs parents sont coupables toute leur vie durant.
Je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont impardonnables.
Hein. J'ai compris, vous avez d'ailleurs précisé. Mais en dehors de ça, je pense qu'on peut choisir d'être la victime de son éducation toute sa vie.
Ouais.
C'est un choix délibéré, comme on peut choisir de se libérer. De ça.
Absolument.
Alors, si votre fille vous disait davantage que toi, maman, il y a deux ou trois livres qui récemment ont vraiment fait la différence, vous seriez vexé de savoir que la littérature l'a emporté.
Je serais tellement heureuse parce que, vous vous rendez compte, si j'étais toute puissante, si j'étais son seul point de contact avec le monde, ce serait absolument terrifiant.
Il y a plein de parents qui veulent ça.
Ouais. Ah non, moi je veux pas ça. Mais ma fille, récemment, alors elle lit et relit de Nathalie Kupferman « On était des poissons », ce qui est quand même l'histoire d'une mère et d'une fille. Et puis récemment, elle a découvert les nouvelles histoires extraordinaires de Poe.
Avez aussi parcouru, je pense.
Oui, absolument. Donc ça lui plaît beaucoup. Puis elle a dû, pendant l'été, quand même, ça c'était un petit peu plus douloureux, lire intégralement Michel Strogoff. Hein. Alors donc, les longues descriptions encyclopédiques à la Jules Verne, mais bon, elle l'a fait. Donc voilà, donc c'est très bien. Il y a des trucs qu'elle aime aussi et qui ne sont pas du tout mon genre, et c'est tant mieux.
Est-ce qu'on se fait à l'idée, jeune, parce qu'évidemment, c'est une perception que vous aviez de vous, que votre mère était là pour être brillante, lumineuse, belle, et que ce n'était pas votre destin. Alors évidemment, c'est un jugement que vous portez sur la tronche que vous avez. Mais est-ce qu'on se fait à l'idée ou on s'accommode?
On fait avec, mais je suis très contente d'avoir pu écrire ces pages sur la splendeur de ma mère. Parce que vous voyez, je ne suis pas du tout de ces filles qui... bien sûr que j'ai souffert des conséquences de sa beauté quand j'étais enfant, parce que c'était... C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, c'est ce que j'ai raconté dans Saturne et dans Les Enténébrés, quand vous voyez votre mère, voilà, l'effet qu'elle produit sur les hommes, bien sûr qu'à hauteur d'enfant, c'est douloureux. À hauteur de femme, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Reste que... Je suis très contente, très heureuse d'avoir pu fixer entre les pages du livre ce qu'a été cette beauté-là. Ce qu'elle a été. Vous voyez, parce que maintenant, ma mère vieillit, le temps passe. Mais reste cette beauté-là, écrite entre les pages et l'amour immense qu'elle m'a... Au bout du compte, c'est ça, l'amour immense qu'elle m'a inspiré et qu'elle m'inspire encore.
Vous parliez tout à l'heure de ces tempêtes qui se sont déchaînées, jeunes. Sans entrer dans les détails, en quoi elles vous façonnent, ces tempêtes? Parce que j'ai la certitude qu'on est, beaucoup fait par ce
Bien
qui
sûr.
Nous a pétri. Pardonnez l'expression, mais je pense qu'il y a un peu de ça. La personne que vous êtes aujourd'hui, donc, été faite par ces moments très difficiles et douloureux.
Oui, vous savez, Neige Sino a écrit dans son très beau livre « Triste tigre » que, je ne voudrais pas trahir la citation, mais il y a l'idée que voilà ce que cet homme lui a fait monstrueusement endurer. Le plus génial et le plus terrible de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de lui. Je dirais... Donc, pour vous répondre de biais, que la somme des violences endurées...
Violence ?
la somme des violences endurées dans l'enfance et dans l'adolescence, vous voyez, au bout du compte, eh ben, ça forge quelque chose et ça produit peut-être le plus terrible de ce qu'on peut mettre dans la littérature, mais aussi parfois le plus fulgurant. Donc,
mais violence fait penser peut-être à l'idée d'avoir été écorché.
Ça n'a plus d'importance.
On peut se libérer de tout ça. Clairement, vous l'avez fait.
On peut. Parfois, on ne peut pas. Et puis, parfois, on peut. Mais je vais vous dire un truc, ça a toujours un prix. Même quand on peut, ça a un prix. Mais ça, c'est ma part secrète, qui ne regarde que moi, qui ne regarde absolument pas la littérature. Bon, on a l'air libéré comme ça, on a l'air arrogant, peut-être un peu prétentieuse, mais en fait, c'est du pipeau. Hein. Je suis très démunie et très effrayée. Hein.
Mais comment se fait-il qu'on arrive à si bien bluffer? Parce qu'évidemment, si quelqu'un est avec nous depuis 20 minutes...
Mais il y a l'écriture.
Mais je reviens à la question du pipeau.
Oui.
Comment se fait-il qu'on soit si capable de bien bluffer? Peut-être que c'est la seule manière de survivre. Il faut un minimum, à l'occasion, baisser la visière, quoi. Mais en même temps, cette fragilité, c'est aussi ce qui nous constitue. C'est-à-dire que ce que vous protégez, c'est un peu ce qui vous constitue aussi.
Ben, c'est ce qui me permet d'écrire ce que j'écris. Je crois, à un moment donné, des alchimies, il y a ce personnage, Jeanne, qui dit qu'elle est très vide et qu'elle a été, vous voyez, directrice d'un théâtre. Elle a aussi été actrice dans ce théâtre, mais aussi dans d'autres théâtres. Et on l'a trouvé incroyable dans sa capacité de jouer tout un tas de rôles, d'absorber le monde comme ça et d'incarner tout un tas de trucs.
Être en cru, quoi.
Oui, voilà. Et elle explique à Camille, au terme de cette nuit de confession, on va revisiter la généalogie des parents et du parrain de Camille et l'origine mystérieuse et secrète de leur obsession pour Goya et son génie. Elle va lui dire... vous savez, moi, en fait, je suis... tout au fond de moi, il n'y a personne. Et voilà, c'est pour ça que je peux tout jouer, mais ce qui m'a servi dans l'art m'a détruite dans la vie. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires là-dessus.
Intéressant. Je me permets de le dire. Dans le passage biographique, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du journalisme. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté parce que, dans votre cas, c'est... Par faiblesse morale, dites-vous, avoir fait le métier. Alors, il se trouve que je l'ai un peu pratiqué. Peut-être suis-je faible.
Non,
mais c'est une blague développée. Pourquoi par faiblesse morale? Et qu'est-ce que ça vous dit, d'ailleurs, de ce métier que vous n'avez pas tellement aimé, sinon pour les rencontres, où il y a comme une espèce d'injonction de faire simple, d'être lisible, et où très souvent, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, le public est un peu méprisé?
Je voulais écrire. Je voulais une vie d'écriture. Je ne voulais faire que ça. Mais je venais d'une famille où l'on considérait, tout en admirant les très grands écrivains, dans ma famille, il y avait des œuvres de Kessel, de Céline, de Cervantes, voilà, partout. Hein. Être écrivain, c'était pas un métier, c'était pas très utile.
Hein, moins d'avoir la certitude d'être Cervantes avant d'écrire.
Et je savais d'emblée que je ne le serais pas. Hein. Donc voilà, partant de là, on est condamné à faire un métier utile et donc à faire des études utiles. Donc j'ai docilement, j'avais pas le choix de toute façon. Donc j'ai obéi, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Je n'avais pas les moyens de m'y opposer. Et donc, j'ai découvert le journalisme. Alors, TF1, LCI, ce qui me plaisait quand même, c'était de partir en reportage, vous voyez, c'est-à-dire de rencontrer toutes sortes d'univers. À un moment donné, j'ai travaillé au bureau de Metz et donc on allait aussi bien couvrir des procès en assises que des faits divers. Je me souviens qu'on avait couvert l'affaire Francis Holm. Je me suis retrouvée à couvrir la nuit de... C'est loin tout ça, la nuit du crash du Concorde. Hein. C'est moi qui étais envoyée à Gonesse, et donc on est parti avec l'équipe faire les premières images, mais comme j'étais simple stagiaire, ça a été repris le lendemain dans le JT de 13h par quelqu'un d'autre, mais...
La chasse aux images, aux scoops.
Je me souviens de la chasse aux images, la chasse aux scoops, mais si vous voulez, le côté sujet, verbe, complément, vous connaissez, vous avez 1 minute 30 pour traiter de la complexité du monde, je trouve ça très très méprisant. Très méprisant.
Mais c'est là-dessus qu'on a commencé d'ailleurs notre entretien.
Je préfère avoir 300 ou 500 pages pour tenter de traiter d'une toute petite partie de la grande fresque du monde. Vous voyez, je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans. Donc, voilà. Hein, après un épisode que j'ai raconté dans Saturne, un épisode d'effondrement profond, quand je suis sortie de là, je me suis dit, allez, je... On recommence tout. On recommence tout et... Bon, j'avais écrit un premier texte hein, quand j'avais 24 ans.
Vous étiez au bord de l'abîme, là, à l'instant.
Ouais.
Vous parliez de l'effondrement et puis, oh, bifurcation à 90 degrés.
Ah ben oui, toujours.
Hein. Toujours. Alors moi, j'ai envie de rester au bord de l'abîme parce que l'effondrement, et on reviendra si vous voulez au texte, ça me fera plaisir. L'effondrement, il est essentiel dans votre parcours.
Oui.
D'ailleurs, il y a quelque chose de très alchimique parce qu'il y a un avant et un après. Mmh. La matière a changé. Vous êtes probablement, parce que ça serait un bon choix de mots que de parler d'alchimie à travers ce...
Oui. Il y a des gens, vous voyez, pour qui, bien sûr, la vie est faite de rupture, de fin, de continuité, de début, comme le dit le très beau texte de Claire Marin, les débuts. Hein, on peut recommencer. Peut-on recommencer sa vie, refaire sa vie? Puis il y a des gens pour qui, véritablement, à un moment donné, il y a une cassure, ils ont cessé de vivre, ils ont cessé d'être, et puis à un moment donné, la vie reprend ses droits. Dans mon cas, ça a été cela. Et c'est vrai qu'après, je veux dire, l'effondrement saturnien...
Alors, pour ceux qui manqueraient d'imagination et qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'un effondrement saturnien?
C'est la dépression mélancolique, hein, voilà,
que vous voyez, parce que vous avez parlé de Styron tout à l'heure, de William Styron, qui a écrit là-dessus divinement.
Oui, absolument.
Cette image d'être un peu comme Gulliver, ligoté à la plage avec la mer qui monte tranquillement. Et on voit l'eau arriver on est incapable de bouger. Je pense que c'est l'image qu'il employait. Il y avait quelque chose de ça, cette marée montante qui va nous engloutir. Alors, vous la voyez arriver, cette mélancolie?
Non, vous ne la voyez pas arriver. Un matin, c'est là, ça fond dessus. Et puis, il fait nuit en permanence. Et il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Tout est enténébré, tout coagule, le passé, le présent, le futur, dans une espèce de mélasse terrifiante. Vous n'avez plus du tout l'impression d'être vivant. L'avez-vous déjà été? Voilà, il y a des accidents de la vie comme ça, la suite de très grands deuils. Puis on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir, hein, jamais. Puis un jour, on s'en sort. Et puis, moi, dans mon cas, j'ai réémergé de ce truc radicalement différente. Je déteste la personne que j'ai été.
Avant ?
Ah oui, je la déteste, je la méprise.
Vous la méprisez?
Ah oui, je la méprise, à part l'enfant.
Alors, il y a entre l'enfance et cette période de dépression, donc peut-être 10 ans, 12 ans, je ne sais pas.
Oui, vous savez, trop docile, voulant plaire, voulant être aimé à tout prix, médiocre. Mais reste un complexe, c'est que pendant toutes ces pendant toutes ces années de maladie, vous voyez, j'ai pas lu parce que j'étais incapable de lire et j'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire. Il y avait une inscription dans une grande prépa littéraire. Je n'ai pas eu le droit d'y aller. Ça reste un une grande tristesse,
le
un grand chagrin.
Le droit donné par qui?
C'est la famille, vous savez.
À quel âge à ce moment-là?
Voilà, 18 ans après le bac. Parce que c'est pas utile, donc il faut faire un métier utile. Mais au bout du compte, vous voyez, peut-être que j'aurais appris à faire des phrases toutes droites, mais que j'aurais pas pu écrire ce que je peux écrire aujourd'hui. Donc,
et elles ne sont pas toutes droites d'ailleurs dans le dernier, les alchimies. Il y a quelque chose d'un rythme quasi hypnotique dans certaines des phrases, une scansion. Il y a vraiment. Moi, j'étais absorbé ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir trouvé son propre petit sillon pour écrire comme ça.
Je ne sais pas.
Air dubitatif pour ceux qui nous écoutent.
Non, mais j'écoute, je cherche à comprendre où vous voulez en venir. Oh, c'est très difficile de...
Mais je vous rassure, je ne sais pas où je veux en venir. Je suis avec vous
sur la
paroi.
Moi aussi, je suis avec vous, mais ce qui m'intéressait, c'était de vraiment m'amuser et de transmettre le plaisir d'écriture. Pour les Enténébrés et Saturne, ça n'a pas été une partie de plaisir d'écrire ces livres. Pour les Alchimies, je me suis vraiment amusée dans l'invention des personnages. Vous voyez, puis des leurs aussi. C'est-à-dire que ça commence comme un roman social, hôpital de banlieue parisienne en 2022, en pleine crise de l'institution hospitalière. Cette femme, fin de la quarantaine, mère célibataire d'une adolescente un peu tempétueuse, ses collègues, médecins légistes aussi, qui vivent tout un tas de situations burlesques, parce que je voulais, voilà, parce que c'est quand on est médecin légiste, on travaille avec la mort et dans la mort en permanence, mais montrer, c'est véritablement le cas, et on la sent aussi, mais que tout ça est piqueté de beaucoup d'humour et beaucoup de vitalité. Quand vous êtes soignant, hein, si vous n'avez pas d'humour et d'ironie, vous tenez pas le coup. Et donc, ça commence un peu à la limite, comme ces séries, vous savez, qui vont de Urgence à Hippocrate, en passant par Dr House. J'ai voulu pasticher les codes de ces séries-là, jusqu'à un moment donné où Camille reçoit un soir un mail ou énigmatique où il est question du peintre Goya et de son crâne. Et alors là, stupeur, puisque ses parents et son parrain, du temps de leur jeunesse, quand ils étaient étudiants en médecine à Bordeaux,
s'étaient intéressés
au crâne.
Mais, docteur, oui. Permettez-moi de vous arrêter. Réalisez-vous que vous êtes, au premier prétexte, parti sur le pitch du livre, alors que nous étions à parler de ces ténèbres qui, il y a peut-être 20 ans, vous ont englouti.
Ah ben oui, parce que c'est pas intéressant. Moi, je suis là pour parler de littérature.
Je pense que c'est intéressant parce que l'un et l'autre sont intimement liés, nécessairement.
Pas sûr.
Pas sûr.
Vous savez, parfois, il y a une disjonction flagrante. Hein,
parce qu'au nombre des choses que vous avez souvent dites, je crois, cette expression « il faut faire son deuil », vous l'aborez. Alors, vous parliez justement des deuils vous faisiez au moment de cet épisode dépressif. Et c'est certainement pas une consolation de se faire dire « tu auras à faire ton deuil », comme si on devait se résigner parce que tout passe.
C'est ce que je disais au moment de Saturne, hein, et ça je le maintiens fermement. On nous dit on peut faire la cuisine, on peut faire son travail, on peut faire les courses, mais on ne fait pas son deuil. On est fait par le deuil et on fait avec le deuil. Cela, je le maintiens très très fermement. Donc il y a des choses, dans l'existence qui sont impardonnables. Il y a des choses qui sont irrécupérables. Des traumatismes, des scandales qui ne passeront jamais. Ça, c'est très, très clair. Mais simplement, c'est pas parce que je me remettrai jamais de la mort de mon père que toute ma vie, je dois écrire là-dessus. Non, certainement pas. Ça y est, j'ai fait le boulot. ça, c'est fait.
Coché.
Et il y avait vraiment un appétit pour la fiction et une envie de partir là-dedans et d'explorer des mondes nouveaux, d'inventer des personnages.
Mais ça, c'est le nouveau personnage que vous êtes vous-même devenu, puisque vous semblez avoir une opinion qui n'est pas très, très, très grande ou élevée de ce que vous étiez avant cette dépression ou cet épisode mélancolique. Je ne sais pas comment on doit le caractériser. Mais chose certaine, on est encore aujourd'hui, j'ai l'impression, pour ceux qui traversent ces périodes sombres, indulgent si c'est compact, c'est-à-dire que si ça dure le temps que ça doit durer, mais beaucoup plus sévère face à tous ceux qui n'auraient apparemment pas l'épine dorsale suffisamment forte pour être capable de se redresser et de combattre cette mélancolie.
Bien sûr.
Si on avait le choix, d'ailleurs.
On n'a pas le choix, hein Emmanuel Carrère le dit très très bien dans plusieurs de ses livres. Il a très bien parlé lui aussi de la dépression mélancolique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Comme si c'était, vous voyez, une faiblesse morale ou une insuffisance ou un déficit allez, tu pourrais faire quelques efforts. On a bien le droit d'être très triste, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Vous voyez, sinon on commence à être pénible, on commence à être mis en marge de la société. On n'est plus l'entrepreneur productif et glorieux de sa légende personnelle, hein, et donc. Voilà,
c'est une injonction, ça.
Mis à l'écart. Ben, vous voyez, il y a certains grands artistes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Stromae. Mm-hmm. Voilà. Il sait ce que c'est que les ténèbres. Et, alors, il l'a bien mis en scène, hein, dans l'enfer, justement. Alors, il a le droit d'être malade, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ça. Hein? Et pour les écrivains, c'est pareil. On a le droit,
il y a un juste temps, une mesure adéquate.
Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, effectivement, il y a des gens qui ne se relèvent jamais. C'est terriblement injuste, mais ça ne fait pas d'eux des êtres minables ni déficitaires, pas du tout. Vous savez, tout ça, c'est aussi une question de chimie. Hein? Est-ce que tel médicament va marcher pour telle personne? Est-ce que sur tel autre, ça ne va pas marcher? C'est pas plus...
Vous vous êtes jugé pendant cette période?
Ah, mais je me juge en permanence.
Mais c'est évident qu'on est un peu plus vulnérable quand on est dans les ténèbres. Et le regard des autres est peut-être encore plus accablant. Parce qu'au départ, vous le disiez, peut-être qu'il y a une indulgence. Après un certain temps, c'est une autre affaire.
Non, je n'ai jamais eu aucune indulgence. Ni pour mon être, ni pour mon écriture. Et donc, c'est pour ça que les pires critiques que je pourrais lire, à la limite, ne seront jamais à la hauteur...
De ce que vous vous réservez.
De ce que je me réserve, voilà.
Donc, l'enfer, c'est pas les autres.
Ah, oui,
pour
voilà.
Citer ou Garcin, l'enfer, c'est vous.
Oui, mais écoutez, on...
Dit-elle avec un enthousiasme certain, ouais.
Ben oui, mais parce qu'on fait avec, hein, on se connaît, on connaît le petit théâtre, hein, au bout d'un moment. Donc,
Déjà, quand on parle de soi à la troisième personne, on connaît, plutôt que je connais mon petit théâtre à moi.
Ben, c'est une façon, si vous voulez, c'est pas pour faire de l'Alain Delon, hein, loin s'en faut, mais c'est une façon d'interpeller nos auditeurs, de dire que voilà, c'est un mécanisme assez fréquent, au bout du compte, et...
Qu'est-ce qui fait qu'un jour, c'est enténébré, et puis que peu de temps après, quasi, je dirais brutalement, c'est lumineux?
Il n'y a pas de réponse générale. Dans mon cas, je crois qu'avoir pu écrire Saturne, tout de même, m'a permis de me délester de quelque chose. Et puis, vous savez, les bonnes rencontres dans la vie font aussi que... Voilà.
On peut être sauvé par les autres, alors.
Oui, on peut être banalement sauvé par l'amour, on peut être banalement sauvé par l'amitié, on peut être banalement sauvé par...
Mais c'est terrible, s'arracher, je vous écoute, c'est comme si c'était catastrophique de prêter le flanc à l'idée d'être sauvé par l'amour ou par l'amitié, comme s'il y avait quelque chose, si vous aspiriez à quelque chose de supérieur.
Non, mais c'est pas ça. Depuis tout à l'heure, je suis insupportée par le fait d'avoir à parler de moi. C'est terrible. Je voudrais parler que de mes bouquins ou des livres des autres.
On a parlé beaucoup des livres.
Ou d'art. Et donc voilà.
Vous êtes comme Jean d'Ormesson, d'ailleurs, j'ai remarqué que vous avez toujours une citation à propos.
Écoutez.
Peut-être qu'on avance masqué ou qu'on se révèle par ces citations et ce qu'on a aimé.
Alors, je ne vais pas vous sortir notre citation de Nietzsche, sinon ce serait insupportable. Tout ce qui est profond aime le masque. Mais bon, voilà. Non, mais je suis là pour parler d'art et de littérature, même si j'aime beaucoup converser avec vous.
Est-ce donc une invitation à ce que nous remontions sur le cheval ou la monture du livre?
Allons-y.
Parce que c'est là qu'on s'est laissé il y a quelques minutes. On parlait de ce dernier né, qui est tout à la fois au départ une exposition, vous disiez peut-être à la manière même des séries. Je pensais à une série justement espagnole qui se passe dans le monde de la médecine légiste à Barcelone. J'oublie le nom de la série, mais...
Ah, je ne la connais pas, celle-là.
Et c'est super intéressant, macabre par moments, avec justement des éclairages qui pourraient peut-être ressembler à ce que vous décrivez bien dans le livre. Puis ensuite, c'est un peu comme un roman policier. Il y a quelque chose d'une enquête. il y a un mystère. Qu'est-ce qui est arrivé avec le crâne de Goya? Or, c'est pas le seul crâne à être disparu dans l'histoire des 200 ou 300 dernières années. Pourquoi s'intéresse-t-on tant au crâne de gens qui avaient peut-être la tête bien remplie?
Oui. Alors, il y avait une science au 19e siècle, la phrénologie, et notamment lancée, propulsée sur le devant de la scène par un Autrichien, Franz Josef Gall. Et ce type postulait que nos vices et nos vertus, nos grandeurs et nos tares étaient inscrites sur les bosses de notre crâne, répartis en différentes aires. Et c'est comme ça qu'on a pu estimer aussi, c'est-à-dire Gall et ses élèves à sa suite, qu'il y avait des criminels nés, ou des prostituées nées, ou des génies nés. Ce qui pose, vous voyez, on est déjà...
On est prédestinés.
On est prédestinés, mais là, on sent tout le potentiel terriblement eugéniste de
cette théorie. Ça annonce plus le XXe siècle. Hein.
Ah ben oui, ça l'annonce carrément. Mais toujours est-il qu'à la suite des théories de Gall, il y a des gens qui se sont passionnés pour les collections de crânes. Et donc, c'est comme ça que tout un tas de crânes de nos grands artistes et génies ont été subtilisés. Alors, le crâne de Goya, effectivement, dérobé après son enterrement. Il est mort à Bordeaux, puisqu'il était en exil là-bas à la suite du retour de l'Inquisition espagnole. Mais aussi le crâne de Beethoven, le crâne de Descartes, plus précocement, mais qui s'est baladé de main en main pendant très, très longtemps. Vous voyez, c'est un peu comme les reliques. Des rois ou des saints. On se figure que si on possède un morceau du génie, on va s'approprier une part de son génie.
Il y a un personnage qui décide d'avaler un petit bout de ce crâne, pensant peut-être que de l'ingérer fera de lui quelque chose qu'il n'est pas.
Absolument. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai inventé. Ce geste de ce peintre... qui a vraiment existé, Dioniso Fieros, et qui a peint en 1849 un tableau qui s'appelle « Crâne de Goya ». Comment le type a-t-il pu peindre en 1849 le crâne de Goya, alors qu'à l'époque, on n'avait pas encore exhumé le corps de Goya pour le rapatrier en Espagne, et donc prétendument, on ne savait pas qu'on avait volé la tête du peintre. C'est un des grands mystères de l'histoire de l'art, à partir duquel j'ai voulu travailler. Et donc, le geste ultime de Fieros, c'est vraiment une opération alchimique. C'est-à-dire que Fieros était le valet d'un homme hyper célèbre à l'époque de Goya, qui s'appelait le marquis de San Andrian. C'est un grand mécène des exilés espagnols à Bordeaux. Et il admirait beaucoup Goya. Et Fieros était son valet. Fieros se piquait de peinture. Fieros était un très bon peintre, mais Fieros n'était pas à la hauteur du génie de Goya. Donc j'ai imaginé ce truc, vous voyez, de manger un petit morceau du crâne du génie pour peut-être se l'approprier.
De l'anthropophagie, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et c'est un écho, vous voyez, au tableau de Goya, Saturne dévorant un de ses enfants.
Alors, je vous ai confessé que c'est un tableau qui, pour moi, est fondamental, pour plein de raisons, on pourrait y revenir. Mais Goya n'est pas un choix innocent non plus, parce qu'il y a un avant et un après dans la vie de Goya. Il y a ce qui précède de 1792, ma mémoire me sert bien. Peintre ambitieux, je ne dirais pas quelconque, mais plus léger, dans la dentelle presque. Et puis, après 1792, avec un moment évidemment qui le frappe dans son corps, personnage sombre, un peintre sombre. Alors, Napoléon va contribuer éventuellement à ça aussi, les horreurs des armées napoléoniennes.
Ah, mais il a bien travaillé, oui.
Mais ce n'est plus le même homme. Il y a une alchimie aussi qui s'opère.
C'est ça.
Comme vous avez, alors, je ne reviendrai pas sur vous, puisque
non,
vous détestez.
Voilà.
Mais il y a quelque chose,
faire,
non
voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait césure pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure.
Pourquoi change-t-on ?
Voilà, qu'est-ce qui fait que parfois, il y a des événements dans la vie qui font drastiquement césure et qu'on en émerge plus du tout le même. Ça m'a fascinée dans la vie de Goya. Première partie de vie, type ambitieux, qui veut tout faire pour plaire aux puissants, y compris épouser, sans doute sans amour, une femme dont la famille était un peu introduite auprès de la cour. Il finit par devenir peintre de cour. Il fait, comme vous l'avez dit, des cartons de tapisserie un peu facétieux. Il y a déjà un peu d'irrévérence, mais ça reste somme toute assez académique. Et puis 1792, en pleine rue à Séville, il est foudroyé, une attaque neurologique. Il émerge de cela, transfiguré, et ça donne les Caprichos, ces gravures dont vous avez parlé, hein, qui illustrent les guerres napoléoniennes, la guerre entre les Français et les Espagnols, les horreurs hein, que cela a engendrées. Et puis c'est quand même un type qui finit par s'enfermer sur les hauteurs de Madrid, dans une maison où il va peindre à même les murs.
Sur les murs.
À même les murs, ce qui va donner les peintures noires, le chien, Saturne dévorant un de ses fils, mais aussi tout un tas d'autres peintures absolument ténébreuses. Puis ensuite, il va fuir parce qu'il a tellement dénoncé les excès de l'Inquisition et sa compagne encore plus frontalement, qui sont contraints de fuir à Bordeaux. Quelle vie ! Et tout ça dans une seule tête.
Dans une seule tête qu'on n'arrive plus aujourd'hui à retracer.
Oui.
Vous enviez le peintre. On dit souvent qu'une image vaut mille mots, mais dans le cas d'une peinture, c'est plusieurs images, plusieurs interprétations et certainement des dizaines de milliers de mots. Et vous le dites d'ailleurs, que dans les tableaux de Goya, il y a une capacité à rendre compte de l'âme humaine que peut-être la meilleure, la plus belle des phrases n'arrive pas à donner.
Bien sûr. Il y a une supériorité, de l'image. Sauf quand on est Proust, hein, mais voilà, et qu'on arrive à décrire magnifiquement la peinture. Mais il y a quand même, on ne peut jamais décrire la chose dans sa totalité. Elle est. C'est ce que dit Pierre, le père de Camille, à un moment donné, à Jeanne, dans les souvenirs que Jeanne va raconter. C'est-à-dire, il y a le chien de Goya, et on a beau écrire des tonnes de phrases sur le chien de Goya, on ne viendra jamais à bout du mystère de cette image, ce qu'il nous cause. Il est, et sa présence seule, vous voyez, ça a presque valeur d'icône. C'est comme les icônes, on peut certes écrire dessus, mais ça ne dira jamais la totalité du mystère.
Vous êtes donc envieuse de ce que le peintre peut faire.
Je suis extrêmement admirative. Oui, comment ne pas être envieuse, mais en même temps, c'est très... Enfin, moi, je dessine... mes petits dessins sont assez limités. Donc, je suis admirative surtout. Plus qu'envieux, je suis très admirative.
Mais cette alchimie qui est...
Et très heureuse que ça existe. C'est merveilleux que de tels tableaux existent.
Et qu'ils existent toujours aussi. Parce que c'est toujours le miracle de ce qu'après tant d'aventures...
C'est ça. Après tant d'aventures, vous vous rendez compte que les œuvres d'art, voilà, comme les peintures noires, elles ont été arrachées au désastre des siècles, au désastre des guerres. Hein, c'est-à-dire que malgré les bombardements, il y a eu un bombardement tout à côté du Prado, malgré la folie des hommes, malgré les inquisitions, malgré les censures, et ben ces œuvres-là demeurent. Et en 2023, il y a toujours des gamins et des adultes qui peuvent aller voir les Goya au Prado. Et ces œuvres se balade aussi, elle se promène. Il y a une très belle expo Goya au musée de Lille. Je ne sais pas si certains Goya sont allés jusqu'à chez vous.
Oui.
Oui. Mais c'est génial quand les tableaux voyagent comme ça.
Oui.
Quand on peut les voir, un peintre espagnol qui arrive au Québec, c'est génial.
Partout, en fait, c'est la possibilité instantanément de regarder une autre époque, de regarder une autre aventure humaine et d'être en contact intime.
Voilà, parce que bien sûr, on peut le voir dans les livres ou maintenant, on peut le voir sur Internet, hein, en deux clics, voilà, le chien de Goya. Mais ce n'est pas pareil.
Du tout.
C'est pas pareil.
De toute façon, la première fois que j'ai vu Saturne dévorant un de ses fils, ben, c'est un choc, mais qui n'est pas comparable à l'image dans un livre.
C'est ça.
Goya qui change... C'est peut-être annonciateur, et c'est pas un virage violent que je veux imposer à notre conversation, mais de la volonté aujourd'hui, très, très entendue et ferme, de changer, y compris de changer dans son genre, je ne dirais pas dans sa biologie. Et vous avez parlé quelquefois de ça, de cet appel. Il nous invitait, sans le savoir évidemment, à ouvrir cette porte que nous ne sommes pas nécessairement destinés à être ce que le programme annonçait à la naissance, dans le fond.
Bien sûr.
Vous regardez avec ce petit sourire en coin. Mais où vas-tu aboutir, mon vieux? Oui, ben, vous dites bien sûr, bien sûr.
Où vas-tu aboutir, mon vieux?
Parce que ça fait évidemment beaucoup réagir aujourd'hui. On est, selon les personnes à qui on pose la question, mais on est très intimement, j'ai l'impression, bousculé par ce qui se passe, y compris par ces questions liées au genre.
Mmh.
À la biologie peut-être, mais d'abord au genre. Parce qu'on est profondément conservateur, c'est-à-dire que c'est des choses qui viennent nous titiller dans ce qu'on a de plus intime, mais qu'on ne s'est pas encore fait à l'idée.
Mmh.
Ou parce que depuis toujours, changer est un tabou.
Ah ben, c'est-à-dire que quand vous changez, c'est inquiétant pour l'autre, c'est l'irruption de l'inquiétante étrangeté, parce que l'autre vous a connu comme ça. Puis vous dites, ah non, non, ce que tu as vu, en fait, ce n'était pas moi. Moi, je suis
autre chose.
Et moi, je me réaliserai complètement dans cette nouvelle identité-là. Mais c'est terriblement inquiétant. Mmh. Moi, je crois beaucoup, vous voyez, à la liberté et au choix de chaque être. Hein, donc, vous voyez, dans j'aime beaucoup Marguerite Yourcenar, et ben dans ses romans, les personnages, ils n'ont jamais d'orientation sexuelle vraiment bien définie. Hein. Si vous regardez L'œuvre au noir, qui est un livre auquel je rends un hommage assez explicite dans les alchimies.
Très clairement.
Zénon va aimer des femmes et des hommes, va être un peu médecin, puis un peu soldat, puis un peu sorcier, puis tout à fait alchimiste, un peu tout cela ensemble. Et c'est justement parce qu'il est insaisissable qu'il est accusé d'hérésie et qu'il en perdra la vie. Hein? On n'aime pas.
Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est insaisissable fait très peur.
Ah oui, bien sûr.
Et ça, c'est l'ultime frontière de la subversité. L'insaisissable fait toujours très peur.
N'est-ce pas? Alors, justement, on parlait d'amour au début de la conversation. L'insaisissable, oui, en amour. Et l'insaisissable en art, c'est pourtant des choses assez magnifiques, et assez mystérieuses et indéfinissables. Bon, faut dire que j'ai beaucoup lu les mystiques, hein, et qu'il y a une petite pente. Plus les années passent, hein, vous voyez, plus voilà, plus ces choses-là à la fois viennent calmer un emballement, peut-être apporter une certaine joie, plus de clarté dans l'écriture, sans doute.
Quiétude ou pas du tout?
Oh oui, je crois, oui. Oui, oui. Oui, vraiment plus qu'avant. Alors, vous voyez, par rapport aux peurs, on aurait pu avoir une image d'intranquillité. Bien sûr qu'il y a toujours une inquiétude et une intranquillité, mais il y a aussi beaucoup de... Oui, plus de calme, sans doute.
Alors, sur ce calme, sans doute, ou ce plus de calme, sans doute, je nous propose d'atterrir. J'ai beaucoup aimé cette conversation. Elle vous a un peu horripilé quand vous étiez à parler de vous.
Oui, beaucoup.
Beaucoup?
Beaucoup, oui.
C'est entendu. Mais j'ai trouvé le voyage amusant.
Moi aussi.
C'est l'essentiel. Merci beaucoup, Sarah.
Merci à vous. Merci infiniment.
Je rappelle que le petit dernier, Les Alchimies, est évidemment disponible et je le recommande fortement. Je rappelle aussi que la recherche était le fait de Marianne Grenon, c'est Jeanne Croteau qui est à la réalisation, Adrien Beccaria ici avec nous pour l'enregistrement, Stéphane Bureau microphone. Et une dernière fois encore, je vous le dis, si vous pouvez vous manifester sur nos différentes plateformes en laissant des commentaires, en vous abonnant, en fait, en faisant tout ce qu'il faut pour que le référencement soit encore plus facile pour Contact, ça sera très apprécié. À très bientôt.